Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une excellente, d'excellentes vacances après ces deux mois d'absence. Enfin, c'est énorme. Moi, je me suis un petit peu ennuyée de vous. Bonjour Nathalie.
Pas de micro.
Ah si, ça y est, t'arrives.
Bonsoir.
Il n'avait pas branché Théo.
Oui.
Bon, Nathalie, t'es toujours maître du temps et de l'histoire. On est reparti pour un tour.
Ouais.
Et puis, ben, bonjour Théo. Je ne t'oublie pas, à la régie. Sans lui, nous ne saurions rien. Hein, on ne serait pas diffusé. Hein, on va remettre...
Arrête, tu vas me faire pleurer.
Oh mais oui, j'aimerais bien te voir pleurer. Bon, mais écoutez... Alors, ce soir, non, n'abuse pas, on va bien commencer. Ce soir, moi, j'avais envie de vous faire partager un petit peu des recettes de mon enfance. Et puis, parfois, des recettes qu'on a oubliées et qui, pourtant, sont simples, rapides et faciles à réaliser. Alors, on va voir ensemble un petit peu les ingrédients et puis le matériel. Alors, vous avez vu, les ingrédients, ils ont été dans l'ordre, mais on a tout mélangé pour vous disperser un petit peu le matériel. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que dans certaines recettes, on va prendre les mêmes ustensiles, le même matériel. Et bon, pour moi, c'était plus pratique. Et puis, comme ça, vous avez tout à la portée de main. Voilà. Donc, vous verrez ensuite. Dans les suites des autres émissions, moi je vous en parle pas tout de suite. La semaine prochaine, on vous prépare autre chose, des petites surprises à droite, à gauche. Voilà, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Pour le moment, nous allons passer donc aux ingrédients et puis au matériel. Donc aujourd'hui, on a décidé donc les recettes de mon enfance. De votre enfance aussi, parce que je suis certaine que vos mamans ou vos grands-mères faisaient ce genre de choses-là. Moi, j'ai choisi les produits laitiers pour le moment. Il y en aura d'autres au fil de l'année. On verra si vous êtes sage et si vous êtes demandeur. Pour cela, on a donc le yaourt nature ou vanillé. Sans yaourtière, ça c'est important parce que tout le monde n'a pas de place pour mettre la yaourtière et puis il n'a pas de yaourtière tout simplement. Du fromage ricotta, donc c'est la base du fromage, vous verrez qu'il y aura des déclinaisons de fromage après par la suite, mais on ne verra pas ça aujourd'hui, on ne verra que la ricotta. Et puis le beurre. Voyez, c'est trois recettes où il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Alors pour les yaourts, il nous faudra 1 litre de lait entier, un yaourt entier et une gousse de vanille. Alors j'insiste sur le lait entier et le yaourt entier parce que si vous le faites avec du demi-écrémé et du yaourt qui est pasteurisé, qui est pas entier, vous n'aurez pas la texture ferme comme un bon yaourt. Voilà. Bon, après, ça dépend ce que vous aimez, mais on aura un yaourt plus liquide. Pour la ricotta, on aura besoin de 2 litres de lait. Pourquoi 2 litres? Parce que vous allez voir que ça fait des tout petits fromages, puisqu'on va récupérer que le lait caillé et on va garder le petit lait, le babeurre. Ensuite, on aura besoin de 2 ml de crème fraîche liquide entière. Et le lait, j'ai oublié de le préciser, c'est toujours du lait entier. On va avoir besoin de 45 ml de jus de citron et de 2 cuillères à soupe de sel. Alors moi, pour la ricotta, on peut mettre de la fleur de sel. Là, je vous mets du sel fin, comme ça, on ne s'embête pas. Et puis pour le beurre, on va avoir besoin de 30 ml de crème... je me gourre pas parce que sinon... Donc 30 centilitres de crème liquide entière. Et puis, alors, vous pouvez prendre 30 centilitres de crème liquide entière ou de crème épaisse. Peu importe. Ça fait exactement la même chose.
C'est à combien de pourcents de matière grasse?
Ah, un maximum.
Le max.
Un max.
D'accord.
Un max. C'est-à-dire qu'en grande surface, vous allez trouver à la 40%.
Oui.
Voilà. Il ne faut surtout pas prendre la 0% parce que là, vous n'allez rien avoir. Oui. parce qu'on a besoin de ce petit lait qui va former le beurre. Et il ne faut surtout pas prendre non plus la régime ou
la 15-20. La 15-20. Minimum 30 peut-être.
Voilà, minimum 30. Si vous trouvez une 45, c'est formidable. Mm-hmm. Mais voilà, le mieux, c'est de l'acheter au fromager. Parce qu'au moins, ça les fait vivre, plutôt que dans les grandes surfaces. C'est vrai que le prix est un peu différent, mais pas tant que ça. Et que vous y retrouverez quand vous ferez le beurre. Et puis, si jamais un jour, vous avez une pénurie de yaourt, de fromage ou de beurre, vous reprendrez les recettes et vous verrez, c'est aussi simple, c'est formidable. Vous n'aurez pas de soucis. Et je vais vous dire aussi combien de temps on peut le garder. Oui. C'est important. Voilà, pour le côté matériel, on va avoir... Alors, non, j'ai oublié les 9 grammes de fleur de sel. Ça, c'est important pour la conservation, entre autres, du beurre. Ça, c'est comme on veut, mais c'est mieux pour la conservation. Ensuite, pour le matériel, côté matériel, on va avoir besoin d'une casserole, d'un saladier, d'un récipient à bec verseur, d'un chinois... d'un fouet, d'un entonnoir, de 8 pots en verre. Alors moi, c'est 8 pots de 125 litres, 125 millilitres. Excusez-moi, ça commence bien. Moi, ce que je fais, c'est que tous mes pots en verre que j'utilise quand je fais mes yaourts, j'achète chez le fromager, il me vend mes pots en verre fermiers. Et je récupère ces pots-là. Et je les lave bien, je les nettoie correctement. Et je les mets dans une boîte, comme ça je les utilise quand je veux faire plusieurs yaourts. Et je les utilise aussi pour des verrines, tout simplement.
D'accord.
Voilà, comme ça, bon, ça fait à peu près 125 millilitres. Et quand je fais un gâteau au yaourt ou une recette avec 125 ml, je sais que c'est la contenance. Alors bien évidemment, on n'aura pas à remplir jusqu'en haut, mais pour un litre, c'est 8. 8 de 125. De 125. Un plat à gratin, vous comprendrez pourquoi. Un papier aluminium, un élastique ou une ficelle. Ça, c'est pour côté fromage, pour le suspendre. Un presse-agrumes, donc presse-citron. Hein.
Le coton de fromage.
Le coton de fromage, donc on est sur le fromage. Alors, si vous n'avez pas de coton de fromage, prenez un lange. Vous savez, les vieux langes qu'on avait quand on était...
Un peu tissé, on voit...
Voilà,
d'accord.
Tissé. Donc ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut.
Voilà, on peut trouver ça dans n'importe quel supermarché, j'imagine, au rayon puériculture.
Voilà, tout à fait, sauf qu'il va être en format de couche. Et
s'achète en carré, ouais.
Bon. Mais un coton de fromage, ça ne coûte pas bien cher. Franchement,
oui,
ça ne coûte pas bien cher.
Oui, ça ne coûte pas cher.
Moi, au début, je fais sans coton. Hein. J'ai fait sans coton, j'ai fait uniquement avec mon chinois et ça allait bien. Ça allait bien. Et après, je lui mettais... je vous expliquerai, je prenais une boîte en plastique, un petit peu style... pas une boîte en plastique, je prenais un pot, vous savez, dans lequel on met les plantes quand on achète chez le jardinier.
Oui, d'accord.
Il y a des petits trous.
Oui.
Des tout petits trous, style... entre autres, c'est plutôt pour les orchidées. Et je prenais ça, et si mon pot n'était pas assez troué, je mettais des pointes dedans, et je le trouais. Et je mettais mon fromage dedans.
Ah d'accord.
Et ça me permettait d'égoutter. Voilà. Excuse-moi Théo. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite astuce. Donc ne commencez pas à prendre, à acheter tout. Faites d'abord vos essais, trouvez ce que vous avez. Vous avez peut-être des petites passoires, vous avez peut-être des petits paniers à faisselle.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Des paniers à faisselle, tout simplement.
Ça, on peut garder le
Bien
petit
sûr.
Panier, on le lave et on peut le réutiliser.
Tout
pour,
à fait.
Et
tout
ça remplace le coton.
Tout à fait. Le coton, de toute manière, il faut que ça soit égoutté. Donc après, à vous de le suspendre ou vous mettez une grille. Enfin, ouais. Voilà, il y a plein d'astuces. Vous trouvez, si jamais vous ne trouvez pas d'astuces, à la limite, vous laissez un mail... un mail comment un mail à la radio et puis moi je vous trouverai vos astuces hein, mais oui. N'achetez pas, enfin moi je suis pas partisane d'acheter tout ça, faites des essais d'abord et puis si c'est pour vous à votre goût et à votre convenance et eh ben vous investissez, mais bon, un coton de fromage ça coûte pas bien cher, mais ça plus ça plus ça plus ça puis on n'a pas forcément de la place dans les placards. Voilà, donc si on pouvait réutiliser les choses plutôt que de les jeter, ça serait pas plus mal. Donc je continue, j'étais au contour de fromage. Ensuite, on aura besoin d'un presse-agrumes pour le citron, puisqu'on va avoir besoin de citron, un écumoir, une spatule, un thermomètre à cuisine. Alors, moi j'ai mis un thermomètre à cuisine pour nos auditeurs, mais il faut savoir que moi je n'en ai pas. Voilà. Donc, je vais vous dire comment je sais la température.
Oui.
Et parce qu'il y a une montée de température à faire. Et c'est très simple. Donc, mon petit doigt me dit ma température. Voilà. De mon lait. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure au fur et à mesure. Pour le beurre, ben, on va avoir besoin d'un batteur, entre autres, un fouet, et d'un film étirable et d'un papier cuisson. Voilà. Mais écoutez, le temps de un petit peu tout chercher si vous n'avez pas tout. Moi, ce que je vous propose, c'est une courte page de musique et de pub. Et puis, on se retrouve pour commencer les recettes.
Parc Babyland à Miland, 34 attractions, la nouveauté 2022, une expérience unique. Bonjour professeur.
Ici le professeur W. Je vous invite à monter à bord de ma nouvelle création, le Pteranodon.
Le professeur W, créateur de dinosaures, vous invite dans son laboratoire pour découvrir sa toute nouvelle invention. Une attraction familiale vous permettant de vous envoler à plus de 30 mètres de haut, tel un véritable ptérodactyle.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
I'm good.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien. Nous voici de retour. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans les produits laitiers et nous allons commencer par la recette des yaourts sans yaourtière. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on fait un pêle-mêle de recettes au quotidien. Ce sont des produits que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, que ce soit les yaourts pour le goûter, que ce soit le fromage, ben tout le monde en mange. Et puis de le fabriquer avec les enfants ou avec les amis. Et ben les enfants qui n'aiment pas forcément manger du fromage parce que ben voilà, et ben de fait que vous allez le fabriquer avec eux, que ce soit les yaourts ou que ce soit le fromage ou encore le beurre, ben ça va leur donner envie de goûter. Et ça va leur donner le vrai goût des choses. Voilà, c'est l'authenticité, on va dire. C'est le terroir.
C'est le terroir. Tu le fais bien.
Ah oui, non, mais j'ai des années d'expérience aussi. Alors, on va commencer déjà par mettre le four en marche. Vous allez voir que le four, on le met que pendant 15 minutes. Après, on ne va plus s'en servir. C'est important d'utiliser le four. Alors, il y a d'autres méthodes pour faire des yaourts, mais je trouvais que c'était... Enfin, moi, je fais celle-ci et mes yaourts, ils sont vraiment nickel quand je fais celle-là. Bon, j'ai d'autres techniques, mais ça, c'est autre chose. On va mettre le four à 100 degrés, à chauffer à 100 degrés. Donc, le thermostat, c'est à peu près 3-4 pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, vous allez prendre une casserole et vous allez mettre votre lait entier, le 1 litre de lait entier. Voilà. Et vous pouvez mettre de la vanille dedans. Alors, ceux qui n'ont pas de gousse de vanille, pas de panique, vous mettez du sucre vanillé. Sauf que votre yaourt va être sucré. Moi, perso, je préfère la gousse de vanille. Je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Et puis, je la laisse chauffer avec le lait. Et on va monter la température du lait à 45 degrés. Alors, on n'a pas de thermomètre. Vous avez un thermomètre, c'est formidable, vous le mettez dedans. En général, il y a une petite grille de protection. Et puis, vous mélangez votre lait avec. Parce que si vous le mettez au fond de la casserole, le problème qui va se poser, c'est que le fond de la casserole sera chaud, mais le haut ne sera pas chaud. Donc, on n'aura pas les 45 degrés partout. Donc si vous avez un thermomètre, c'est super, mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de thermomètre, vous allez utiliser votre petit doigt. Alors le petit doigt doit être propre, c'est beaucoup mieux parce que le lait, on ne va pas le faire chauffer à 100 degrés, on va le faire chauffer à 45. Alors je vous explique, vous voyez, on va avoir un petit peu une peau qui va se mettre au niveau de la casserole avec votre lait, et là vous allez ça va commencer à monter en température. Donc là, à ce moment-là, vous trempez votre petit doigt dans la casserole, vous mélangez avec votre petit doigt et vous comptez jusqu'à 7, mais à 7 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si votre petit doigt y picote, c'est que vous avez atteint les 45.
Ah bon.
Si votre petit doigt ne picote pas, c'est que vous n'avez pas atteint les 45, la température. Voilà, moi je le fais comme ça, au pif, et ça marche. Voilà, donc ça c'est des astuces, il n'y a pas besoin d'investir, vous le faites au fur et à mesure. Il ne faut surtout pas que votre lait bulle, c'est-à-dire que s'il bulle, ça veut dire qu'il a bouilli. Donc il va falloir le laisser refroidir. Si jamais un jour vous l'oubliez, mais ça monte vite en température hein, avec le feu, si jamais un jour vous l'oubliez, vous serez obligé de descendre votre feu et de descendre la température. Donc pour ça, il va falloir touiller avec une cuillère en bois, tout simplement, jusqu'à temps que la température soit descendue. On peut aussi tremper la casserole dans l'eau froide pour descendre la température. Voilà. Moi, j'ai toujours fait ça sans thermomètre et franchement, ça fonctionne.
En tout cas, si on l'oublie, c'est pas perdu. On laisse redescendre.
Alors là, on part du principe que c'est du lait qu'on a acheté en brique ou en bouteille. Alors, pour... pour bien le lait entier, il est de couleur rouge.
Oui.
Hein? Si vous achetez directement à la ferme, moi, je vous conseille de le faire bouillir, ce lait. Parce qu'il sort de la pie de la vache et que la fermière ne l'a pas forcément fait bouillir. Donc, moi, je le fais bouillir et je vais le faire descendre en température. Donc, je le fais bouillir à peu près 10 minutes. Comme ça, au moins, je sais que les bactéries, les mauvaises bactéries sont parties et je le fais descendre en température. Donc, ou je le mets dans la casserole, dans l'eau froide, ou je le remue de temps en temps, voilà. Mais ça va relativement vite. Hein. Après, tout dépend comment vous chauffez chez vous et quel feu vous utilisez. Moi, j'utilise le gaz. J'ai plus tendance à gérer le gaz que tout ce qui est vitre céram. Moi, j'ai un petit peu de mal avec tout ce modernisme. voilà, vous savez, je suis une vieille dame de 50 ans, donc j'ai du mal avec tout ce qui est électronique. Voilà, comme ça, moi, je suis avec mes allumettes, j'allume mon gaz, tout va bien. Voilà, comme ça, je peux plus facilement exploser la baraque, c'est plus facile. Bien, alors, on revient sur notre température. Donc, une fois que vous avez atteint la température de 45 degrés, donc le petit doigt qui picote, on va éteindre déjà le four. On va le passer le four à 45 degrés. Donc, vous voyez le temps de que le lait chauffe, ça va pas prendre un quart d'heure déjà. Hein, on va descendre le four de 100 degrés, on le met à 100 degrés exprès pour avoir bien chaud partout dans les parois, et après on le descend à 45.
45 donc, ou 50 ?
Non, 50. 45. À 50, excuse-moi. À 50, donc c'est thermostat de 1, à peu près. Hein. Donc,
je ne me suis jamais servi dessus, là.
Ouais, mais on s'en sert pour les meringues.
Les meringues.
Pour les meringues. C'est un petit peu.
J'ai jamais réussi à faire de meringues.
Si les gens ont une formule étuve, c'est encore mieux.
Ah oui.
S'ils ont une formule, sauf que qui dit étuve, ça veut dire que ça fonctionne tout le temps. L'énergie, c'est une consommation d'énergie.
Et là, aujourd'hui.
La consommation d'énergie. Vaut mieux éviter. Bien. Donc, du coup, notre température de lait est à 45 degrés. On passe notre four à 50. Et puis, pendant que vous allez le verser progressivement dans un saladier dans lequel vous aurez mis un yaourt entier. J'insiste sur le entier fermier.
Fermier ?
Voilà. Ouais, fermier ou entier. Ouais. Alors fermier, en général, il y a des petits granulés. C'est pas grave parce que de toute manière, ça va se mélanger au lait. Et entier, vous l'avez lisse. C'est comme vous voulez. Ce qui est un petit peu granulé ou vous aimez ce qui est lisse. Moi, perso, c'est lisse. Voilà, j'aime pas quand ça râpe dans ma bouche au moment du repas. Après, pour la faisselle, ça sera encore autre chose. Ça sera différent. Mais ça, on reviendra sur une autre émission. Donc, le yaourt, il doit être dilué au lait. Donc, c'est pour ça que vous allez verser tout doucement votre lait. Donc, vous en versez une petite partie sur le yaourt. Et puis, avec un fouet, sans faire mousser. Il faut juste, en fin de compte, que le yaourt se dilue au lait. Et puis, vous continuez à verser votre lait tout doucement. Et puis, votre préparation, elle est prête. Voilà. Une fois que le mélange, il est bien mélangé, donc vous voyez pas qu'il y a reste un peu de yaourt, ça va relativement vite hein, quand vous avez pris un bon yaourt entier, vous allez le mettre dans un récipient à bec verseur. Alors moi j'utilise le bec verseur, il y en a qui utilisent les louches, moi bec verseur comme ça c'est plus simple, et par-dessus je mets un chinois un peu conique, de façon à pouvoir récupérer quand je verse dans mon récipient à bec verseur, je récupère la vanille que je ne jette pas, et puis la peau que je ne jette pas. La peau, moi je la mange parce que j'adore ça. Sinon, je vais la mélanger à la crème pour faire en fin de compte mon fromage.
Ah, d'accord.
Tout simplement. Parce que la petite peau, en fin de compte, c'est de la crème. C'est la crème oui. qui remonte, donc faut rien ne se jette. Pour la vanille, comme on n'a pas enlevé les petites graines et que les petites graines se sont étalées dans le lait, et ben on va la faire sécher sur un petit papier sopalin et puis vous allez la mettre dans du sucre. Et ça va vous faire du sucre qui sera légèrement parfumé à la vanille.
Ah, c'est une bonne idée. Ça.
Voilà. Donc on ne jette rien, surtout ne jetez rien dans cette recette. Voilà. Donc, et quand on le lait, tout ça c'est chaud, on va éteindre notre four. Donc je vous rappelle qu'on l'a mis à 100 degrés. Et tout ça, c'est en un quart d'heure, c'est fait. Hein. À peine, hein. Qu'on l'a descendu à 50, une fois que les parois étaient bien chaudes, on l'a descendu à 50. Là, on le met, on l'éteint. On l'éteint et on va mettre notre préparation de lait de yaourt dans des petites, des petits pots en verre ou en plastique. Moi, perso, je préfère du verre, comme ça au moins ça tient un peu plus la température. Et puis, mes petits pots, je vais les mettre dans un plat à gratin. Parce que, après, je vais tout mettre au four. Mais avant de mettre au four, je vais faire bouillir un petit peu d'eau. Donc, dans une bouilloire électrique ou dans une bouilloire, peu importe. Vous faites bouillir de l'eau et vous allez le verser dans le plat à gratin. Mais à 2-3 cm de haut. Donc, il n'y a pas besoin de faire un rabord. Ça fait un petit bain-marie. Ça va maintenir la température un maximum. Et je vais mettre par-dessus un papier aluminium, par-dessus le plat, mes yaourts, avec l'eau à l'intérieur. Et je le mets dans le four. Et là, je laisse toute la nuit.
Le four est éteint, on est bien d'accord.
Et le four est éteint.
Ok.
Et toute la nuit. Donc, l'eau qui va être bouillie, plus le four qui va te maintenir à 50 degrés pendant un certain temps, et ça va faire, en fin de compte, les bactéries vont se développer, et c'est ça qui va faire la fermentation de votre yaourt. Alors, pour ceux qui sont un petit peu incrédules, il existe des ferments en grande surface. Oui. Moi, perso,
ou à la pharmacie, je crois.
Ou à la pharmacie. Moi, perso, j'utilise pas ça. Que ce soit pour les yaourts ou que ce soit pour les fromages, j'utilise pas ce genre de ferment. Voilà. J'essaye de faire les choses les plus naturelles possibles. Et alors, si vous n'avez pas de papier aluminium ou parce que vous n'aimez pas le papier aluminium, si vous avez un plat qui se referme, deux plats à gratin identiques, vous en mettez un par-dessus, hein, ça suffit, hein. Il faut que ça garde la chaleur pendant un laps de temps. Voilà. Et ça, vous faites ça, vous enfournez ça, le four éteint, j'insiste là-dessus, toute la nuit. Voilà. Je vous parle du résultat après, parce que Nathalie, tu as quelque chose à nous dire sur ces fameux yaourts.
Oui, alors, le yaourt ou yogourt, c'est donc un lait fermenté par le développement des seules bactéries lactiques thermophiles, attention je vais parler latin, Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus qui doivent être entresemées simultanément et se trouver vivantes dans le produit fini. Donc c'est la définition officielle française depuis 1963, précisée par le décret de 1988. Alors, d'un pays à l'autre, les législations peuvent cependant différer. Il fait partie de nombreux types de lait fermenté et est introduit par les Turcs dès le début du XIe siècle au Moyen-Orient, puis dans les Balkans par les Ottomans dès le XIVe siècle, très populaire encore aujourd'hui. Il est fait maison par de nombreuses familles dans les pays turcophones. Donc en Turquie, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, pardon, et dans les Balkans, Bulgarie, Roumanie, Grèce et j'en passe, mais aussi au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, au Liban. Sa standardisation et sa production industrielle dans la seconde moitié du XXe siècle ont fait un produit de grande consommation dans de nombreux pays du monde. Ce mets naturellement acide est souvent additionné de sucre et de fruits pour être consommé en dessert ou au petit déjeuner.
Et voilà. Donc, le résultat après d'une nuit. Merci Nathalie pour ces informations. C'était quand même un peu important de savoir d'où venait un petit peu la création du yaourt. Mais bon, depuis la nuit des temps, hein, je dirais qu'on fait... moi, j'ai vu ma grand-mère faire ça, mais ma maman faisait ça.
Ma maman faisait, ouais, c'est vrai.
Et voilà, c'est à vous de transmettre, c'est à nous aussi de transmettre à nos enfants le savoir-faire, parce que ça fait partie du savoir-faire. Et du savoir bien manger. Donc, le résultat après une nuit, c'est simple. Vous allez retirer le papier aluminium, vous allez enlever tout ça, l'enlever de l'eau. Normalement, le yaourt devrait être encore tiède. Alors, le matin, pour les plus gourmands, vous pouvez le consommer tout de suite. Voilà, donc, mais il faut savoir que ça sera encore chaud, la texture sera onctueuse. Et si par contre vous êtes un petit peu patient et que vous mettez encore 4 heures au froid, donc au frigo, eh ben, ils seront un petit peu plus fermes et vous les garderez, ils garderont l'onctuosité, mais ils auront la fermeté en même temps. Voilà, donc c'est où vous les mettez tièdes et puis ils seront un petit peu liquides, ou vous attendez 4 heures au frigo et ils seront un petit peu plus fermes. Mais voilà, il faut le temps. Moi, ça dépend. Il y a des fois, ça se mange très très vite et puis il y a des fois, on attend 4 heures. Ça dépend quelle période, à quel moment je le fais.
Moi, personnellement, les yaourts, je les aime bien frais.
Voilà. Bon, après, c'est comme on veut.
Chacun voit.
Alors, la conservation du yaourt, vous allez pouvoir le conserver 4 à 5 jours. Voilà, à partir du moment où il est froid dans le frigo, on est bien d'accord. Il faut impérativement que vous laissiez refroidir en totalité votre yaourt avant de le mettre au frigo, sinon ça va flinguer votre frigo. Hein.
D'accord.
Donc du coup, vous le laissez bien refroidir, vous le mettez au frigo et vous allez pouvoir conserver 4 à 5 jours si vous avez de la chance. Moi perso, j'ai pas le temps, ils n'ont pas le temps d'attendre 4-5 jours pour la simple raison, c'est qu'il y a toujours un gâteau au yaourt où je fais du pain avec. Voilà, un jour je vous expliquerai comment on fait du pain avec du yaourt. C'est pas très compliqué, mais ça peut être une chose sympa. Mais ça sera pour une autre fois. Écoutez, voilà, pour le yaourt, chose simple, vous pouvez l'agrémenter de compote, de confiture, de sucre ou de pas sucre, comme vous voulez. C'est à vous qui voyez, vous pouvez faire des gâteaux avec. Il y a plein de choses et plein de recettes à faire avec des bons yaourts faits maison. On se retrouve tout de suite après cette page pour une nouvelle recette.
Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas.
Je vole encore, comme toi. J'en veux encore, même si je comprends pas. Pourquoi je change et quelquefois j'ai tellement peur que la nuit devienne vague. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords, un peu mal à droite, j'arrive encore à capturer mes. va dans le nord. Je voudrais tout savoir. Et va dans le nord.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, 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 bah, nous revoici de retour et on va continuer donc dans nos produits laitiers, puisqu'on va utiliser, donc dans nos, on va faire la recette de la ricotta. Donc encore une fois, hein, la ricotta, vous allez voir, c'est quelque chose de simple, facile, rapide, je dirais, enfin rien n'est rapide, hein, mais tout est facile et simple à faire, il suffit de bien suivre. Et encore, hein, il y a des fois où même il y a des loupés, mais tout se rattrape. Tout se rattrape. Bien, alors, pour ça, on va prendre une casserole et puis on va y mettre 2 litres de lait entier et on va y rajouter 100 ml de crème fraîche liquide entière. Si vous avez de la crème épaisse, vous mettez 100 ml, mais c'est plus compliqué de mesurer une. Donc, du coup, bah, vous mettez 2 cuillères. Voilà, ça doit faire à peu près 100 ml si vous utilisez de la crème épaisse. Donc, crème liquide. Et puis, on va réchauffer tout ça un petit peu naturellement. Et là, ça va être entre 35 et 38. Donc, vraiment, là, vous allez voir, hein, ça va tiédir. Vous laissez à l'air ambiance dans un premier temps. Vous mélangez bien l'ensemble. Et puis, ben, vous laissez tout doucement, ça va durer 5 minutes, hein, à peine, hein, de monter à 35. Donc là, c'est toujours pareil, hein, vous avez un thermomètre, c'est formidable, vous êtes bien équipé. Moi, je remets mon doigt et si c'est tiède, eh ben, vous savez, c'est comme la température des enfants. Et en général, moi là, je pose le dos de mon doigt.
Oui, c'est ce qu'on fait pour les enfants.
Pour les enfants, quand on pose pour le lait ou le coude, bon, vous n'allez pas mettre le coude dans votre casserole, hein, ça fait désagréable. C'est pas forcément très chouette. Donc moi, je me pose le dos d'un de mes doigts. Il faut qu'il soit propre, encore une fois. Et puis, voilà. Donc, une fois que ma température est à bonne et que mon doigt me dit que c'est bon, du coup, je vais rajouter les 45 ml de citron. Alors, vous avez pressé votre citron auparavant et vous enlevez la pulpe, n'est pas obligatoire. Et c'est mieux de l'enlever. Et c'est juste le jus de citron. Donc, les pépins et la pulpe, on ne s'en sert pas. Alors, on peut mettre aussi du vinaigre. Moi, perso, j'aime moins bien. Voilà. Pourtant, on sent pas la différence. Mais voilà, c'est une question d'odeur au départ. Je préfère que ça sente le citron au départ que le vinaigre.
C'est sûr, c'est plus agréable.
Et c'est vinaigre blanc. Bon, pour ceux qui... Mais c'est la même dose. Donc moi, je prends quelque chose de naturel, c'est le citron. Et puis, vous allez le mettre dans votre casserole. C'est 45 ml de citron. Vous allez mélanger et vous allez voir. Ça va commencer à arriver. Le petit lait, ça s'appelle le caillage. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça se fera sur la deuxième phase de cuisson. Donc, vous touillez toujours, hein, et puis vous remettez au feu et sur votre feu et vous allez remettre votre thermomètre dans la casserole si vous en avez un, sinon le petit doigt suffira bien et vous allez maintenir la température, monter la température déjà entre 80 et 85 degrés et on va la maintenir, on va essayer de la maintenir 15 à 25 minutes. Alors moi je sais que je fais ça à l'œil. Les 80-85 degrés de cuisson pendant 20 minutes, il faut qu'il y ait une petite mousse qui se forme. Et là, on a atteint ces 80-85 degrés. Et pendant 5 à 10 minutes, franchement, ça va aller très très vite. Enfin, moi, je mets une... Et j'ai été obligée de mettre un minuteur pour vous, pour que vous ayez une référence, mais il faut savoir que moi, je vois à l'œil. Vous allez voir qu'on va avoir le cahier de ricotta qui va se faire. Et donc, en maintenant la température et en remuant avec une spatule en bois, et en regardant avec... Alors là, pour le fait, si vous mettez votre petit doigt, ça va picoter. À 80 degrés, ça va picoter. Oui. Donc, c'est mieux pour vous de voir les petites bulles qui apparaissent. Ça ne boue pas. Donc, c'est pas des grosses bulles. C'est vraiment une petite mousse qui va se former. Et là, vous baissez au minimum votre gaz. Comme ça, votre gaz ou votre feu, comme ça, vous allez voir que ça va maintenir au chaud. C'est comme ça qu'on maintient au chaud. Hein. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir des petits grains qui vont apparaître et vous allez avoir un liquide un petit peu jaune, un petit peu blanchâtre qui va apparaître. Et en fin de compte, ça va être le petit lait qui va se dégager de la masse du lait. Et on va appeler ça le cahier de ricotta. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien... on va éteindre le feu complètement et on va attendre 5 minutes de façon à que, même un quart d'heure de façon à ce que on puisse avoir toute la ricotta qui va remonter à la surface. Voilà. Donc le temps que, ouais, 10 minutes, ouais, 5-10 minutes, mais ça, encore une fois, ça dépend du feu que vous utilisez, ça dépend de la température, ça dépend de plein de choses. Et puis vous allez voir que la couche superficielle va se former, le petit lait va rester, et la pâte fraîche, elle est la base de la préparation de tous les fromages classiques.
D'accord.
Voilà, on va utiliser tout ça, si on veut le mettre, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous... donc, vous les goûtez, bien évidemment, 5 minutes. Si vous voulez du fromage aux herbes, bah vous allez rajouter de l'ail, du persil, de la crème fraîche. Donc, ça vous fera un style de boursin, hein, pour ne pas nommer
ouais.
Le... si vous voulez qu'il soit plus compact, bah vous le laisserez. Et la ricotta, c'est la base de tous les fromages.
Ah, d'accord.
Voilà, donc de tous les fromages classiques, on va dire, qui ont subi plus ou moins l'affinage. Donc après, c'est l'affinage qui va jouer. Et les champignons, donc, entre autres, on le voit sur du bleu d'Auvergne. Oui, le bleu d'Auvergne, c'est du fromage de vache, parce que le Roquefort, c'est du fromage de brebis, donc c'est pas du tout la même, enfin c'est les mêmes bactéries, mais bon, c'est encore autre chose. Et donc vous, plus vous allez le faire vieillir dans une cave à fromage, moi j'ai pas de cave à fromage, donc je le fais au frigo. Le problème, c'est que mon frigo, il est trop froid, puisque on doit avoir une cave à peu près de 12-15 degrés pour avoir un fromage qui se maintient et qui fermente et qui commence à croûter. Voilà, moi j'ai pas de cave, donc ce que je fais, c'est que je le mets en fromage, je le mets en petits morceaux, ce que je vais expliquer tout à l'heure, je le mets en petites boules, et puis une fois qu'il est un petit peu sec, ou pas totalement, je l'entoure d'herbes de Provence ou de paprika, et puis je les mets au frigo comme ça.
D'accord.
Et comme ça, ça me fait mon fromage frais. Si vous voulez que de la ricotta, dans ces cas-là, eh ben, la pâte, elle est faite. Et on va le mettre dans un chinois. Alors, vous pouvez le mettre dans un panier, un égouttoir. Hein, vous pouvez le mettre dans un chinois. Vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait des trous. Il faut que ça s'égoutte. Et que ça soit suspendu. Il faut que pas ça trempouille. Une fois que vous avez mis dans votre chinois, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets mon chinois et je mets par-dessus mon coton de fromage. Comme ça, je verse directement et j'ai mon coton de fromage. Je ramasse les quatre coins de mon coton de fromage. Je mets un élastique au bout ou une ficelle. Et je le suspends.
D'accord.
Et je mets un récipient en dessous pour que récupérer le petit lait. Parce que le petit lait, ben, vous pouvez le jeter, très bien. Sauf qu'on peut en faire des gâteaux. Et on peut en faire genre des crêpes. Ça remplace le lait et le beurre. Voilà, tout simplement.
D'accord.
Parce qu'il y a encore du lactose à l'intérieur et il y a encore du gras. Donc, on va pouvoir s'en servir pour faire différentes recettes. Ou même du pain à la place de l'eau. Voilà, vous pouvez utiliser ça aussi. Bien. Et on va le mettre au frais dans un local frais pendant 24 heures. Alors, vous avez deux solutions. Ou vous avez un local, c'est-à-dire une cave, où il fait frais. Et là, vous le laissez suspendre pendant 24 heures. Mais il ne faut pas qu'il trempouille dans le jus. Mmh. Donc, il faut vraiment qu'il soit suspendu. Ou alors, bah, vous le mettez au frigo avec des ficelles. Moi, j'ai installé une ficelle. Enfin, comme j'ai une ficelle, comme c'est des grilles, parce que maintenant, on a des frigos avec des plaques en verre. Donc, c'est plus compliqué. Moi, j'ai des grilles, donc tout va bien. Je ficelle et puis, voilà, je fais un nœud coulant. Comme ça, ça me permet. Et pendant 24 heures, il va couler. Voilà, d'accord. Il va s'égoutter. Si vous n'avez pas tout ça, vous prenez pas la tête, vous mettez dans un écumoire, dans une passoire, et vous le filmez, cette passoire sur le dessus, et vous le laissez goûter dans une assiette creuse. Enfin, dans un saladier, hein, parce qu'il y a des fois, ça coule bien. Et ça, pendant 24 heures. Et une fois que les 24 heures sont passées, vous avez votre ricotta. Voilà. C'est tout bête. Hein. Alors après, à vous de la déguster. Vous pouvez la mettre dans les pâtes, vous pouvez la mettre dans la purée, vous pouvez la mettre dans un gratin, vous pouvez la manger comme ça, vous pouvez la saisonner avec du sel, vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà.
Alors cette ricotta, elle a la consistance de celle qu'on achète dans le commerce ou elle est plus sèche? Parce que moi, je t'ai déjà expliqué, j'aime bien la ricotta sèche, c'est-à-dire elle est compacte.
Alors, si tu l'avais compacte, tu vas serrer ton contour de fromage, tu vas le serrer au maximum.
D'accord, je vais presser.
Tu vas le presser, et là tout le jus, et tu vas laisser plus longtemps.
D'accord.
Tu vas laisser plus longtemps. Plus tu vas laisser sécher, plus elle va te sèche.
Ok.
Mais au bout de 24 heures, tu enlèves ton contour, puis tu la mets au frigo. Hein, puisque au bout de 24 heures, tout le petit lait, il va être descendu. Et après, tu la laisses sécher. Et puis là, tu peux la faire sécher. Et au frigo, elle ne va pas sécher naturellement. Donc, elle va toujours être plus ou moins
humide.
Mais si tu la laisses dans une pièce un peu fraîche, bon là, on va avoir l'hiver qui va arriver.
Ouais, donc ça va être plus facile.
Tu vas avoir une petite couche de poils qui vont arriver. Parce que ça va fermenter, ça va moisir, ces champignons qui vont se développer, et puis tu grattes, et puis tu manges, ou tu grattes pas, tu manges comme ça. Hein. C'est, faut savoir que par contre, si tu mets sur un support, essaie que ça soit un support genre gris, et de retourner les fromages.
Oui, d'accord.
De temps en temps, de façon qu'il s'aère. Voilà, je pense, Nathalie, que tu as peut-être quelque chose de nous dire d'où vient cette ricotta.
Oui, oui, oui. Rapidement, la ricotta, en italien, signifie recuite. Et c'est l'appellation usuelle d'une préparation donc laitière d'origine italienne de fromage à pâte fraîche disponible dans presque toutes les régions d'Italie. La ricotta est largement utilisée et fabriquée en Italie, mais l'appellation est employée commercialement aussi dans d'autres pays, accompagnée de fromages fabriqués selon des recettes parfois éloignées de celles d'origine, car cette appellation fait partie du domaine public et ne fait l'objet d'aucune protection. Elle peut donc être employée à travers le monde pour différents fromages. Sa meilleure période de consommation s'étend de juin à septembre.
Voilà. Donc pour nous, on peut la faire tant qu'on veut, à n'importe quelle période que l'on veut. C'est ça.
Oui.
Eh bien, écoutez, voilà, pour notre recette de ricotta, je vous propose une nouvelle pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour une nouvelle recette.
Permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness. Stop what I finished. Don't need.
no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. All that you got, skin to skin, oh my God, don't you stop, boy. Something about introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin, oh my God, don't you stop, oh. Something about
dans l'émission Foodan.
Bien, nous revoici et on va continuer nos produits laitiers avec le beurre. Donc rien de plus simple, vous allez verser les 30 ml de crème fraîche liquide entière dans un saladier. Alors le saladier, il faut qu'il soit un petit peu assez haut parce que là, vous allez mettre votre batteur à l'intérieur avec le fouet et vous allez battre pendant 15 minutes. Alors si vous avez un batteur électrique avec un bol adapté, c'est formidable parce que pendant 15 minutes, vous allez les laisser battre. Sinon, pendant 15 minutes, vous allez attendre que le beurre se forme et vous allez voir qu'au bout de 15 minutes, vous allez voir des petits morceaux, des petits grains, ce qu'on appelle des petits grains de beurre qui vont se détacher du liquide. Et on appelle ça aussi le petit lait ou le babeurre. Et une fois que tous ces petits grains-là se sont formés, et ils vont former en bloc et vont se mettre dans le fouet. Donc pas de panique, hein. Et une fois que vous avez bien, alors pas tous les grains, mais ça va se bloquer dans votre fouet, et ben il vous reste plus que le petit lait. Et vous allez voir, c'est une une couleur un petit peu jaune, un petit peu blanc, comme tout à l'heure dans la recette de la ricotta, mais un petit peu plus jaune. Puisque on travaille uniquement la crème. Donc avant de monter en beurre, elle va devenir chantilly, hein, donc un petit peu blanc, un peu mousseux, et après vous allez voir les petits grains arriver, et ça va venir au bout d'un quart d'heure. Et si vous avez envie de, vous avez trop de quantité, vous battez davantage. Et puis alors vous imaginez avant dans le temps, on le faisait à la main.
Ouais.
Quand même, hein. Donc vous imaginez les forces qu'il fallait qu'on ait. Donc une fois que vous voyez bien que votre beurre, donc les petits grains de beurre se séparent du petit lait ou du bas beurre, eh ben on vous allez mettre ce bloc de beurre qui est un petit peu jaune pastel. Vous allez voir, c'est pas du tout le jaune un petit peu plus puissant qu'on a dans les grandes surfaces, et vous allez mettre ça dans un chinois. Et comme d'hab, le liquide, ben, vous le gardez pour les gâteaux, pour ce que vous avez envie de cuisiner, qui va remplacer le beurre et le lait. Et puis, vous allez rincer votre beurre. Alors, à l'eau froide, voire très froide. Moi, j'aime bien mettre des glaçons dedans, comme ça, ça me permet, comme j'ai les mains chaudes, ça me permet d'éliminer tout le petit lait qui peut rester. Voilà, donc et puis avec le chinois, on l'égoutte bien et on va mettre ça dans un saladier. Normalement, vous n'avez plus de petits lait qui goûte, il n'y a pas besoin puisque c'est assez compact. Et là, vous allez rajouter les 6 grammes, les 9 grammes de fleurs de sel. Alors moi, j'insiste sur les 9 grammes de fleurs de sel parce que déjà, ça fait des petits grains dans le beurre et c'est vachement agréable. Et la conservation sera beaucoup plus longue puisque vous pourrez conserver ce beurre-ci pendant 7 jours. Voilà. Alors, je vous donne une petite astuce. Une fois que votre sel il est bien mélangé, si vous souhaitez le laisser naturel, vous pouvez, mais vous allez le conserver moins longtemps. Par exemple, soyez créatif au niveau de votre beurre. Si un jour vous avez besoin d'un beurre avec de l'ail et du persil, ben ça s'appelle le beurre maître d'hôtel. Donc vous mélangez de l'ail et du persil dedans, vous les mettez en petit boudin. Moi je le forme en petit boudin et comme ça je coupe les petites rondelles et puis ben je les mets au congélateur. Et ce que je fais, c'est que j'intercale un papier de cuisson avec mon beurre, de façon que quand je le mets au congélateur, je n'ai plus que le papier de cuisson à sortir avec mon beurre et ça ne colle pas entre eux.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est tout bête. Donc les petits boudins, vous laissez bien refroidir. Une fois que c'est bien refroidi, vous les coupez en rondelles. Moi, je coupe des carrés 10 sur 10. Voilà, et comme ça me fait ma portion de beurre quand j'en ai besoin. Voilà,
okay.
C'est tout simple, ça se conserve 7 jours avec le sel, et voilà, vous avez une recette impeccable.
Alors 7 jours au frigo,
oui.
Et si on les met au congèle, combien de temps?
6 mois, 1 an.
D'accord, et tout à l'heure, excuse-moi, la ricotta, c'était la conservation, c'était combien de temps?
La ricotta, c'est pareil que le... C'est 4 à 5 jours.
De toute façon, c'est frais, il n'y a pas date de...
Il n'y a pas date de péremption. Il faut savoir que plus vous allez aller dans le temps, plus elle va être sèche, et plus les champignons vont se développer. Et les champignons, ça va pas être des champignons mauvais, ça va être des champignons, des bons champignons.
Ouais, mais il n'y aura pas un goût de... Comment on appelle ça le...
De persiade. Ah bah si.
Si, ouais, si. De, pas de moisi, de rince.
Ah, si. Ouais. De persiade, de rance.
Oui, rance, voilà, c'est ça.
De rance. Donc, le rance, c'est parce que tu rentres et tu sors une matière première.
Ah ouais?
Tu rentres et tu sors le chaud-froid. C'est ça, le rance.
D'accord.
Mais non, ça va développer les bactéries. Puis à un moment donné, il ne sera pas mangeable. Parce que justement, tu n'as pas ces 12 degrés qui sont en continu et tu n'as pas de cave fait pour.
Okay.
Donc le mieux, c'est de le manger frais. Mais au bout de 3 jours, ta ricotta, elle est fraîche. Elle est sèche. Elle est sèche. Et puis franchement, moi je vais te dire, j'ai pas le temps, ça pas le temps de.
Oui, j'imagine. Ouais.
Non, c'est une horreur ce fromage, je trouve. C'est une horreur. Faudrait pas que ça soit inventé.
Je vais tester.
Voilà. Mais écoutez, j'aurais aimé discuter encore des heures de produits laitiers, de fromage. Mais on reviendra là-dessus sur d'autres idées de fromage et d'autres astuces. Comptez sur moi. Notre émission, elle est vraiment touche à sa fin. Là, on est vraiment au taquet. Il y a Théo qui nous fait des gros yeux. Voilà, c'était les produits laitiers de notre enfance à refaire ensemble, en famille, en amis. On se retrouve la semaine prochaine. Yes!
Ouais.
Même jour et même heure. On vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée et un très bon appétit pour ceux qui sont à table.